savoir, Louise Tourret.
Qui ne rêve pas d'être un excellent orateur, de pouvoir en parlant intéresser et même captiver son auditoire, de partager ses idées, convaincre ou d'exprimer ce qu'il a sur le cœur? L'histoire nous apprend que ce qui est considéré de nos jours comme un talent, on parle bien de talent oratoire, fut pendant des siècles une discipline scolaire et peut-être même la principale discipline scolaire. Nous nous arrêterons sur les techniques d'hier et d'aujourd'hui, sur le travail que chacun peut faire sur sa prise de parole et même sur sa voix. En effet, beaucoup de Français se considèrent mauvais à l'oral, héritage de notre système scolaire, là encore, dans lequel la préférence pour l'écrit s'est renforcée au fil du temps. Le système d'examen et de sélection est basé sur l'écrit, aujourd'hui, il est depuis le 19e siècle. Pourtant, on peut se souvenir qu'au début, le baccalauréat était un examen qu'on passait uniquement à l'oral. La première épreuve écrite date de 1830 et elle était optionnelle. En 2018, c'est la place accrue réservée à l'oral dans le nouveau bac qui en a peut-être assuré le bon accueil. Mais la France renoue avec l'oral. Depuis le succès du film à voix haute qui montrait le processus de préparation à un concours d'éloquence en 2016, eh bien les ouvrages de méthode rhétorique et les guides sur les prises de parole se multiplient. On a vu d'autres films de fiction sur le sujet. Alors cet engouement est-il une mode ou un vrai changement? Cette parole encouragée est-elle codifiée, normative, glottophobe qui n'aimerait pas accents locaux ou accents sociaux? Cette nouvelle parole permet-elle de laisser s'exprimer tous les individus? L'oral, donc, aujourd'hui, pour savoir et pouvoir prendre la parole, un véritable enjeu éducatif, personnel, collectif et un enjeu politique et démocratique, car porter sa parole, c'est affirmer ses idées dans l'espace public. Et en fin d'émission, on donne la parole à une personnalité. C'est la leçon de choses de Sophie Bobert et cette personnalité raconte quelque chose de son parcours, de son éducation. Aujourd'hui, c'est l'écrivain Christophe Boltanski qui s'est confié à Sophie Bobert. Une enfance où l'école a tenu une place bien particulière.
Rien dans cette famille ne m'encourageait à aller à l'école et l'école était effectivement perçue comme un monde extérieur un peu inquiétant, un peu dangereux avec des figures d'autorité mais dont on ne sait pas trop quoi attendre d'elle.
Écoutez ce témoignage à travers 17h53, l'élève Boltanski sera au micro de la leçon de choses.
D'un quartier assez difficile, on va dire, où bien parler est plus une tare qu'autre chose. En fait, j'ai grandi dans un endroit où plus les mots étaient simples, étaient rébarbatifs, étaient durs, plus on était respecté. C'était plus à base, je sais qu'il ne faut pas utiliser de gros mots, mais pour bien décrire dans le milieu dans lequel j'ai grandi, c'était plus à base de « wesh ma gueule, nique ta mère » et tout, ça passait mieux qu'un « ouais, je voudrais dire que par ma pensée j'avais beaucoup d'admiration pour ces grands orateurs, pour ces politiciens plutôt. Même Sarkozy, j'admirais beaucoup quand il se mettait là, de sa petite taille, avec ses talonnettes et tout, il se mettait là, « ouais, je veux réformer le parti, je veux une France unie, soudée ». Je veux une France libre. Et là, je me disais, mais putain, je te crois pas, mec, mais qu'est-ce que... mais qu'est-ce que tu m'emportes? Et un autre discours politique qui m'a beaucoup marqué, c'est le discours de Gaulle à la Libération. Paris libéré, Paris martyrisé, je sais plus exactement les termes, mais c'était très, très galvanisant. Et je me suis dit, c'est cool de parler, en fait. C'est bien d'écrire, mais parler, c'est mieux. Parce que quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde.
Conquérir le monde et être soi-même, c'est ce que dit Yohann Youtchou dans ce film à voix haute, dont vous êtes le réalisateur. Stéphane de Freitas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc non seulement réalisateur de ce film, mais aujourd'hui auteur d'un ouvrage, Porter sa voix, sous-titre S'affirmer par la parole. Et c'est publié aux éditions Le Robert, un livre qui est à la fois un livre où on retrouve des méthodes ou en tout cas des procédés dont on peut s'inspirer, mais aussi où vous avez voulu réaffirmer et peut-être préciser votre projet avec cette association qui s'appelle Eloquentia et puis tous ces concours aujourd'hui qui sont organisés un peu partout en France.
C'est ça. En fait, effectivement, à l'origine, avant même le film, ce qui se raconte dans ce film, c'est un projet associatif qui s'appelle Eloquentia, qui est né à Saint-Denis, à l'université, à quelques encablures de là où moi j'ai grandi, dans un quartier à Aubervilliers. Et en fait, la genèse d'Eloquentia, il est double. Il y avait deux idées que j'avais derrière la tête. La première, c'est que moi-même, je m'exprimais vraiment comme un mec de banlieue, quoi. J'étais vraiment avec mes vrais tics de langage, en mode coma, c'est tout, ça va ou quoi, bien. Et lorsque, dans ma vie, j'ai eu à changer d'environnement, c'était à l'âge de 16 ans et demi, je me suis trouvé transvasé dans un autre milieu social, Porte d'Auteuil. Je suis devenu basketteur professionnel et je me suis retrouvé dans un environnement où les gens me jugeaient, me considéraient à la manière dont je m'exprimais. Et j'ai trouvé ça très violent. Et en fait, j'ai commencé à m'enfermer, à m'emmurer. Et la première caractéristique, quand on perd confiance en soi ou quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on n'ose plus s'exprimer. C'est une caractéristique, c'est à peu près le dénominateur commun. Après, c'est différent des comédiens qui peuvent monter sur scène parce qu'ils ont un texte et ils performent. Et peut-être quand ils sortent de scène, ils peuvent retrouver leur timidité. Mais c'est une caractéristique. Ça, c'était la première chose. Et de constater que dans le système scolaire où j'étais, dans cet établissement scolaire, le prof pouvait parler. Nous, on était bon à prendre des notes. Et si on devait prendre la parole, c'était pour dire le mot juste. Et qu'il y avait très peu d'interactions. On ne demandait jamais mon avis. Les élèves étaient là pour justement prendre la parole pour être finalement dans la compétition et dire la bonne réponse. Et l'autre pendant de ça, je vais faire plus court après, mais c'est que on est dans un pays où il y avait une crise sur la liberté d'expression et c'est très révélateur qu'on peut plus se parler les uns les autres dans des sociétés métisses et plurielles. Si on peut plus se parler, s'il y a plus de zone de dialogue, et ben finalement on rentre vraiment dans la clash culture où on s'exprime que sur les réseaux sociaux de manière finalement assez violente pour attirer l'attention souvent quoi. Donc l'idée c'était de recréer des agora. Alors, sous forme de concours de prise de parole, j'aime le terme concours d'éloquence, je le réserve peut-être plutôt pour d'autres initiatives, mais c'était surtout des agora au début, l'idée, qui est née à Saint-Denis et maintenant a émergé dans une trentaine de lieux en France et est devenu cette année, je crois, le plus grand concours de prise de parole francophone, cette année.
Alors, c'est là où votre ouvrage rencontre le propos de... Notre autre invité, vous êtes trois hein, autour de cette table, Pierre Chiron, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un manuel de rhétorique, mais là aussi, il y a un sous-titre, Comment faire de l'élève un citoyen ? Pour vous aussi, il y aurait une urgence à rétablir la place de l'oral aujourd'hui dans notre société et dans notre système scolaire, une urgence citoyenne.
Tout à fait, on dit donner la parole, moi j'aurais envie de dire rendre la parole. J'ai beaucoup aimé dans ce qu'a dit Stéphane, l'idée de finalement de libérer les gens, hein, de les laisser sortir d'une sorte de carcan ou de prison. Et dans la gamme d'exercices dont je parle dans ce petit livre, le premier c'est la fable, qui est encore très proche des origines, du jeu, de l'enfance, etc. Mais le dernier exercice, c'est la proposition de loi. Alors quand je dis comment faire de l'élève un citoyen, je raconte finalement un itinéraire depuis des pratiques du langage très ludique jusqu'à des pratiques du langage très politique. Alors sinon, si vous voulez savoir ce qui m'a amené à ce livre, je peux vous en parler rapidement. Parce que je suis universitaire, hein, c'est mon métier, et j'ai été confronté...
Alors oui, vous êtes, je dois le préciser, historien de la rhétorique, parce que c'est ce qu'on lit aussi dans ce livre, la rhétorique a une histoire, et une histoire qui remonte bien évidemment à l'Antiquité, et qu'on peut raconter, et qui est tout à fait passionnante. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Est, membre de l'Institut Universitaire de France, voilà, et puis j'ajoute que votre ouvrage est publié aux éditions Les Belles Lettres.
Voilà, alors... ce petit livre, en fait, est assez ambitieux. Ma femme dit que c'est le petit livre rouge de Pierre.
C'est vrai qu'il est rouge.
À quoi ça répond ? Ça répond à deux choses. La première, c'est que les pratiques culturelles des jeunes gens évoluent très vite et considérablement. Et le temps de la lecture a considérablement diminué. Quant à l'écriture elle-même, qui était, vous l'avez dit, le socle de la formation intellectuelle, cette pratique de l'écriture, en même temps, a tendance à baisser, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Donc voilà la fameuse prison dont je parlais tout à l'heure. Hein. On ne sait pas parler et on ne sait pas non plus écrire. Alors la deuxième difficulté à laquelle je me suis senti confronté, c'est une difficulté qui est beaucoup plus ancienne, dont j'ai moi-même été victime. Quand j'ai fait mes études, je n'ai rien appris sur le discours entre la phrase et la dissertation. Or, la tradition la plus ancienne, la plus immémoriale et la plus universelle nous apprend qu'il y a aussi la description, le récit, l'écriture du dialogue ou, évidemment, l'oralisation du dialogue. Et ainsi de suite, il y a la thèse, il y a l'éloge, il y a le blâme, il y a un merveilleux exercice qui s'appelle l'étopée, qui consiste à imaginer un personnage connu, hein, ça peut être Harry Potter, en train de discuter dans une circonstance particulièrement dramatique. Alors, il doit à la fois exprimer des sentiments, des passions, des émotions, mais on doit aussi reconstituer la parole spécifique de Harry Potter, avec son âge, son origine sociale, etc., etc. Et ça, c'est ce qui ouvre à ce que j'appelle, enfin, ce que je suis pas le seul à appeler, le décentrement. C'est-à-dire l'accès à la vie intérieure de l'autre et à son expression. Ce livre aussi procède d'une expérience. Alors, c'est pas à Saint-Denis, c'est à Créteil. Alors, ça se passait dans les... C'est une expérience qui date déjà d'une dizaine d'années. C'était sous la présidence de Simone Bonafous, qui m'a beaucoup encouragé à créer un concours d'éloquence. Hein, un concours d'éloquence qui date de 2007 environ, 2007-2008 peut-être, où, sous forme d'une séquence de 10 séances de 2 heures chacune... Moi, je commençais par faire 3 séances de rhétorique, histoire, les liens entre la rhétorique et la démocratie, par exemple. Hein. Tout le monde dit que la rhétorique est critiquable. Personne ne dit qu'elle est indissociable de la démocratie, enfin, de l'histoire. Ensuite, 3 séances par un premier avocat, ensuite un second avocat, et une évaluation sur laquelle je reviendrai, si vous voulez, parce que c'était une évaluation de tous par tous. Le public notait avec un certain nombre de critères, de jugements, les prestations de 5 minutes, des plaidoiries de 5 minutes de chacun des participants de l'atelier. Voilà, donc c'est à la fois de la théorie, ce petit livre, mais c'est aussi de la pratique.
Mais aussi de la pratique, et la pratique, c'est ce que vous faites. Anne de Biran, on vous a déjà un petit peu entendu puisque vous êtes la voix de France Culture, bonjour.
Je suis la voix de votre générique.
Oui. Mais vous ne faites pas seulement ça, vous animez aussi des ateliers à Radio France et vous en avez animé notamment un à l'occasion des journées du patrimoine. Combien avez-vous reçu de visiteurs derrière les micros de la Maison de la Radio ?
On a eu dans les studios d'Inter, de La Matinale et de Nagui, 1350 personnes qui sont passées entre le samedi et le dimanche de 9h30 à 18h30 et on en a mis 400 au micro.
Ouais, qu'entendez-vous quand vous entendez ces auditeurs de tous âges s'exprimer derrière un micro, Anne ?
Alors, ce qu'il y a de très émouvant, en particulier avec les adolescents, c'est que je sens leur besoin d'être pris au sérieux. Ça, c'est très, très touchant. Et j'entends très souvent « j'aime pas ma voix ». Alors voilà, ça revient presque à chaque fois. Et à ce moment-là, je leur dis « écoutez Bachung ». Il a une voix de canard, il a une voix nasale, personne n'y pense. Pour moi, c'est un des plus grands rockeurs qui soit. On n'y pense même pas. Il a imposé sa voix comme un jour on avance en imposant ses défauts. Si vous, ça vous dérange pas, ça dérange personne. D'ailleurs, à un moment, il y a une dame dans le public, il y avait plusieurs personnes autour du micro, il y avait 8 personnes qui a dit « Ah madame, c'était vous la meilleure voix ». Et alors là, je l'ai reprise en disant « Madame, on va dire que c'est la voix que vous préférez. Mais vous seriez surprise de voir combien nos goûts et nos couleurs et combien je peux trouver peut-être une voix extrêmement séduisante qui, vous, ne vous fait aucun effet ». Voilà, il y a toute une subjectivité de la voix.
On va écouter un petit extrait, on va vous entendre, Anne, avec ces visiteurs de la Maison de la Radio.
Vous lisez avec votre petit garçon, je vais essayer de lui trouver un texte un peu sympa, un truc qui soit l'heure d'hiver, c'est facile. Peut-être qu'il n'ira pas toutes, peut-être qu'il vous... Il lui est deux premières phrases, vous prenez la suite, d'accord ?
Ça marche.
Ah, j'adore, c'est Tony Parker.
Il y a chômage.
Il y a chômage.
Bien sûr. Allez-y, monsieur. Et moi je vais laisser ma place. Madame, vous vouliez y aller ? Ok. Donc, chaque mot que vous dites évoque des choses pour l'auditeur. Si vous dites l'Iran, vous ne voyez pas le même Iran que moi. Vous n'avez pas les mêmes images. Ou si vous me dites Carcassonne, bon, vous voyez, on n'a pas les mêmes choses qui viennent. Ou si je dis, il y a une vieille dame, on n'a pas la même vieille dame. Il y a un chien, on n'a pas le même chien. Donc, laissez les images se faire dans la tête de l'auditeur. Chaque mot que vous dites produit des images. Et puis, prenez votre temps. Ne courez pas après les trains. Même si vous n'avez qu'une minute, quand vous arrivez au micro, intérieurement, vous vous dites, j'ai une heure. Et si vous sentez monter le trac et que vous ne savez pas quoi dire, dites, excusez-moi, je ne sais pas quoi vous dire. Formulez les choses. Le trac s'en va. On a très peur du blanc. Et en fait, le trac s'efface quand vous dites ce qui se passe. Tout le monde va rigoler, ça va décontracter, ça va passer. Voyez ? Donc, on va y aller ? C'est bon pour vous ? Allez, hop, c'est parti. On met les casques. Vous montez les niveaux avec le petit bitonio, de manière à ce que vous allez entendre votre voix, à ce que ce soit confortable. Vous allez, moi, je vais lire la première brève. Et à la fin, j'ai fini de parler. Lucas va envoyer un jingle.
France Inter.
À vous, et après, ça passera de vous à vous. OK ? C'est parti. 13h38, vous êtes à l'écoute de France Inter, le journal. La France sera-t-elle le premier pays au monde où circuleront les trains autonomes ? La SNCF a annoncé aujourd'hui le lancement de deux consortiums chargés de réaliser deux prototypes d'ici 2023.
L'heure d'hiver a nouvelle fois remise en question. La Commission européenne propose de la supprimer.
L'heure d'été serait alors la règle. La décision finale devra toutefois être prise par le Parlement européen, qui dans le passé s'était déjà dit plutôt favorable à la fin du changement d'heure.
Une première ce week-end à la braderie de Lille, les coquilles de moules seront transformées en carrelage.
Ce matin, c'était l'épreuve de philo pour les élèves des séries générales et technologiques qui ont dû plancher sur la vérité, l'injustice, le désir, la culture ou encore Schopenhauer.
Le basketteur Tony Parker, nommé ambassadeur pour la jeunesse dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Allez-y.
Oui. C'est la dernière attaque d'envergure du gouvernement américain contre le climat. La Maison-Blanche confirme avoir supprimé un programme de la NASA destiné à surveiller dans l'atmosphère le réchauffement de la planète.
À vous, madame. À vous, allez-y.
J'attends la petite musique.
Ah oui, oui. Alors...
Bonjour, nous sommes sur France Inter. Je vous présente le journal de 18h15. Le basketteur Tony Parker, nommé ambassadeur pour la jeunesse dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, le comité d'organisation des Jeux l'a annoncé aujourd'hui à l'occasion d'une visite dans la capitale française des membres du comité international olympique. Merci, au revoir.
France Inter.
Super. Chouette. Alors, vos impressions ?
Super, génial.
Boum, boum.
Ça donne envie.
Boum, boum, hein, voilà. Ouh. Bon, oui, ben, le métier rentre. C'est super. C'est voilà. Ouais. Super.
Bon, non, ça a été.
Merci.
Ouais, c'est juste arriver à se détendre, à poser, parce qu'au début, voilà. c'est un peu dur. Après, ça va.
Ça va, hein, super.
Oui,
chouette.
Bien phrasé.
Oui, ça a été.
Bon, extra. Oui. Tant mieux.
Merci beaucoup.
C'est chouette. Ah ouais, chouette.
Et vous êtes bien sur France Culture. Nous diffusions donc un extrait de ce que vous avez pu faire, Anne de Biran, dans ses ateliers au micro pendant les journées du patrimoine à Radio France. On aimerait avoir le sentiment de deux spécialistes de la prise de parole, Stéphane de Freitas, sur la manière dont les gens, cette timidité aussi qu'on entend vraiment, dont les gens s'expriment comme ça derrière un micro.
Ce qui est très intéressant, enfin, dans l'extrait, dans votre démarche, Anne, c'est un travail sur la voie de simplement formuler. On a commencé l'émission en parlant de rhétorique. En réalité, dans la pédagogie porter sa voix, qu'on enseigne donc, du coup, dans les formations, on forme à peu près 1200 jeunes chaque année. On devrait en doubler cette année. La rhétorique est une des cinq matières seulement. La rhétorique, nous entendu dans ce qu'on enseigne, c'est vraiment l'art de la structure, de certains exercices comme la fable de conter, mais de surtout apprendre la structure, les canevas, l'idée de syllogisme, de développer une analogie, des réflexes argumentatifs, de poser un argument, une idée, un argument, les types d'arguments, arguments de fait, arguments de droit, de montrer la typologie d'arguments et à chaque fois avoir ce réflexe de mettre un bon exemple, de développer ces réflexes textes de méthode qui permettent de structurer un propos. Mais ce qu'on recherche avant tout, c'est développer la congruence. Et on va voir le lien tout de suite avec la voix. La congruence, c'est quoi? C'est avant tout faire en sorte que ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans les tripes, ce qu'on a en soi, en réalité, notre propre personne, on arrive à le faire monter au cerveau, à le structurer, à l'organiser, pour ensuite réussir à mettre les bons mots qui correspondent exactement à l'idée défendue et à ce qu'on ressent. Et quand on arrive à avoir cet alignement, quand ce qu'on arrive, on arrive à faire ce travail d'introspection, à ressentir, à faire monter au cerveau, à formuler, à organiser, puis à dire et à partager, alors il y a quelque chose, et c'est vraiment ça qu'on observe et qu'on transforme, qui relève vraiment du savoir-être, c'est-à-dire de réussir à se dépasser, à se plonger, à se rencontrer, à l'extérioriser, à le partager avec les autres. Et c'est pas uniquement une aventure individuelle. C'est pour ça que dans le livre, je divise en deux. Je dis, il y a la partie porter sa voix individuellement, qui est un petit peu les canevas de la rhétorique classique, ou avec les schémas de discours et comment s'entraîner justement à les porter. Mais il y a aussi toute une partie qui vise le travail collectif pour les enseignants. Nous, on reçoit, quand le film à voix haute est sorti, on a reçu à peu près 200 demandes d'établissements scolaires. Malheureusement, on n'a pas pu tous les faire. On est intervenu dans une soixantaine à ce jour. Mais d'enseignants qui, en fait, voulaient développer l'oralité, non pas uniquement pour débattre, pour discuter, mais juste pour interagir, pour développer le dialogue, l'écoute, l'esprit critique. Et c'est ça l'enjeu. Donc, dans les cinq matières, on a un cinquième, c'est de la rhétorique classique pure et dure. La deuxième, c'est un travail sur la voix et la respiration. C'est-à-dire que déjà de découvrir sa voix, d'oser la partager, se positionner, ce qui est assez semblable, le jeu du présentateur de télé et le jeu du présentateur radio, c'est un jeu qu'on fait, où on se découvre, on entend sa propre voix, et aussi les trois autres matières, je vais les dire brièvement, du slam, du rap et de la poésie, le tout, c'est-à-dire la prise de parole créative pour développer la créativité aussi. Une matière qu'on appelle l'aspiration personnelle. Alors, dans les collèges et les lycées, c'est juste de se questionner sur, en fait, ce qu'on appelle les soft skills, ce pourquoi on est fait, se découvrir. Moi, je suis un peu introverti. Moi, je suis plutôt méthodique. De se découvrir pour se dire plus tard, trouver un job qui corresponde à peu près à ses soft skills, à ses compétences psychosociales. Et à l'université, c'est clairement le job. Les étudiants arrivent, ils nous disent « je veux être avocat d'affaires », ils ont déjà une maturation. On les accompagne sur toutes les situations d'oralité, que ce soit des entretiens ou parfois in situ par rapport au job qu'ils veulent faire, de ces oralités-là. Et la dernière matière, c'est ce qu'on appelle l'expression scénique, parce que le complément de réussir à bien argumenter, poser un propos, l'ordonnancer, réussir à avoir les bons réflexes argumentatifs, c'est aussi de réussir à le porter avec le corps, de réussir à jouer, à se connecter par un regard avec la gestuelle, et ça nécessite justement de se décentrer, de sortir de soi. Et c'est là où l'expression scénique, qui est une petite fille du théâtre, on va dire, une des branches du théâtre, est extrêmement utile. Donc c'est le mariage de toutes ces matières-là qui permet de faire ce voyage autour de, donc pas de la rhétorique seulement, mais plus, de manière plus générale, d'une formation à la prise de parole.
Alors j'ai deux questions pour vous. Pierre Chion, en quoi ça rejoint ce qu'on sait depuis l'Antiquité et que vous décrivez de la prise de parole? Et puis sur l'extrait qu'on a entendu, ces voix qu'on a entendues, parce que Stéphane de Freitas a terminé sur le corps, la voix fait partie du corps, et ce qu'on entend, c'est la difficulté qu'on a parfois et qu'on a tous à aligner sa voix, son corps, et puis ce qu'on veut dire intellectuellement, ce qu'on veut exprimer.
Ce qui était, à mon avis, très touchant dans cet extrait, c'est, en tout cas pour moi, c'est de retrouver des expériences que j'ai faites avec des étudiants. C'était des groupes de 20 étudiants qui avaient décidé de participer à l'atelier, donc qui étaient déjà très, très motivés. Mais j'ai retrouvé cette espèce de timidité, cette espèce de découverte de soi, et le fait qu'il y ait une écoute accueillante, et en même temps que chacun s'y colle avec et prenne conscience de ses limites et de ses défauts, fait qu'il y a une espèce de synergie qui se met en place. C'est-à-dire que le critique est critiqué et il ne peut pas se permettre d'être intolérant, et il rentre dans une espèce de jeu, moi que je trouve très social et plus lointainement très politique.
On va y revenir aux politiques, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de prise de risque qui expliquerait la timidité?
Alors justement, ce qui a de merveilleux, c'est que cette prise de risque, il y a quelqu'un qui, enfin je ne sais pas qui disait ça, ça donne envie. Et moi, ça correspond à une idée que j'ai depuis longtemps, qui est l'idée d'une espèce d'érotisme de la verbalisation. Les anciens savaient ça déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une période? C'est une phrase qui a un début, et puis un développement, et puis une fin. Mais la fin est inscrite dans le début. Je suis, mon cher ami, suspension, très heureux, de quoi ? De vous voir. Et la fin de la phrase vient couronner, terminer, conclure, accomplir un désir. Hein, ça donne envie, ça donne envie. Et le fait, justement, d'être engagé dans une relation avec les autres, sans parler de sexualité aucunement, mais on voit bien qu'il y a là une façon de se traiter mutuellement en objet d'affection, etc. Et là, à mon avis, la relation rhétorique, j'ai commis une traduction à mon avis, le meilleur traité de rhétorique ancien. Il a été écrit, ce traité, par un philosophe, hein, Aristote. Alors ça m'amène directement au deuxième point que je voulais aborder. Dans ce que disait Stéphane, j'ai retrouvé évidemment les cinq grandes parties de la rhétorique classique. Dans l'Antiquité, la rhétorique, qu'est-ce que c'était ? C'était d'abord un art de la pensée, hein, une invention d'idées, avec des arguments. C'était aussi un art de la taxinomie, un art de la mise en ordre. C'était aussi un art du style. Pas simplement. Il fallait aussi se préparer à délivrer le discours. Donc il fallait l'enregistrer d'une manière ou d'une autre. Donc il y avait aussi une mnémotechnie. Et enfin, le théâtre. Hein, ce que les Grecs appellent hypocrisis, que les Latins ont appelé actio, c'est tout simplement ce qu'il y a de commun entre l'orateur et l'acteur. Et Cicéron a écrit une phrase à propos de Démosthène, une phrase probablement apocryphe, mais il semble qu'on ait posé, enfin peut-être, d'après Cicéron, on aurait demandé à Démosthène qu'est-ce qui est important dans l'art oratoire. Et Démosthène aurait répondu, d'abord l'action, deuxièmement l'action, troisièmement l'action.
Déjà, je m'inscris complètement dans ce que Pierre dit. Les anciens ont tout pensé, beaucoup de choses.
Non, pas du tout mon point de vue. Non, non. Je pense qu'au contraire, les anciens avaient des points de vue différents, mais simplement, rien n'interdit de leur emprunter quelques trucs.
Voilà, c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, le terme de rhétorique est très disputé, puisqu'il n'y a aucune définition aujourd'hui arrêtée, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il y avait différents courants. C'est-à-dire que la rhétorique, pour Protagoras, ou pour Gorgias, donc les maîtres de justement l'école de Gorgias, lorsque Platon fait parler Socrate et qu'ils se rencontrent, en fait, Socrate les révulse. Certes, la rhétorique est née pour qu'on parle dans les assemblées et pour ne pas en venir aux mains pour discuter de la vie de la cité. Mais lorsque Protagoras dit « moi, je peux défendre une thèse d'une manière et en faire aussi l'antithèse tout aussi bien », c'est ce que Platon défend justement, c'est cette recherche de la rhétorique de la vérité. On a eu effectivement ensuite plus tard les courants, que ce soit Quintilien ou Cicéron, ces personnes-là pour qui la parole était un outil politique certes, mais qui devait se rechercher, et c'est là où effectivement la rhétorique rencontre la philosophie, avec une certaine morale, une certaine éthique, et que voilà. Mais finalement le courant sophiste, qui est à la base une bonne chose, c'est-à-dire d'en venir à la parole par le dialogue, de résoudre des conflits de société par le dialogue, et c'est en écho justement à la démarche, et je pense qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui de recréer des agora, ou dans une société où tout le monde a la parole et tout le monde ne s'écoute pas forcément, ou pour se faire entendre, on a l'actualité avec Zemmour, mais on est obligé de punchliner, de frapper les esprits, d'être percutant dans cette grande agora, parce que finalement, il y a ce brouhaha ambiant, tout le monde s'exprime, mais pour attirer l'attention, on a ce recours à la parole. La parole est assimilée à un sport de combat. Et c'est justement ce dialogue de société qu'on retrouve dans les médias, où il y a eu ce réflexe de vouloir être percutant qui derrière douche nos esprits. Et qui finalement induit que nos rapports interpersonnels, parce que la parole c'est encore ce qui a le socle de nos échanges, c'est le socle d'une société, la langue. Et si, dans une salle de classe, qui est là où commence l'apprentissage de la vie en société, parce qu'on est différent, on nous impose ce cercle, si on n'apprend pas à développer l'empathie, l'écoute active, développer l'esprit critique, parce qu'on vient à l'école avec l'influence de nos religions, de nos parents, c'est extrêmement important de développer cette oralité, dont la rhétorique est un fondement indispensable, mais aussi de développer de manière plus générale le dialogue et aussi l'empathie.
Et mieux maîtriser sa propre expression orale, ce serait aussi aiguiser son esprit critique pour mieux entendre ce que disent les autres, Pierre Chiron.
Moi, c'est ce qui m'a frappé. Pardon, je me permets de.
Anne de Biran.
Ouais, je me permets. Je pense que quand je suis revenue voilà à l'intérieur de moi-même après avoir animé ces journées, je me suis demandé ce qui m'avait le plus ému et je me suis dit que c'était de prendre une portion de rue parce que les groupes arrivaient il y avait 25 personnes à chaque fois qui se connaissaient absolument pas et je me suis dit que pendant 10 minutes, on s'était tous écoutés, les petits enfants qui avaient du mal, les personnes âgées qui avaient du mal à voir. On avait aussi des personnes qui avaient des troubles de l'élocution lourds. Et on a tous pris le temps. Et c'était pour moi la grande victoire de ces journées. C'est qu'on se soit écouté sans jugement, dans le respect. Personne n'a ri. Et j'étais très fière de ça.
Alors ça, c'est du côté de l'empathie.
Très fière de ça, oui.
Et puis du côté de l'esprit critique aussi, peut-être pour comprendre mieux certains trucs derrière des discours, les fausses corrélations, par exemple, Pierre Chiron.
Tout à fait. Moi, j'ai retrouvé dans le discours de Stéphane l'opposition classique entre sophistique et philosophie. J'avoue que je suis parfois tenté un peu de prendre la défense des sophistes. D'abord, les sophistes, il faut savoir comment ils font. Et si on veut, justement, ne pas tomber dans leur piège, il faut connaître le fonctionnement des paralogismes. Et c'est ce que fait Aristote, dit ça très bien dans le premier livre de la rhétorique. Il dit, la dialectique et la rhétorique sont les deux techniques qui permettent de déduire des contraires à partir des mêmes prémices. Vous voyez ? On peut tirer des conclusions contradictoires à partir des mêmes éléments. Bon. Simplement, il dit, l'homme est naturellement doué pour la vérité et cette intelligence est propre à l'homme. Ça serait bête d'avoir le dessous sur un sophiste, alors que c'est notre lot à nous, être humain, de savoir se défendre dans ce domaine, alors que, bon, avoir le dessous dans un combat physique, bon, même les animaux savent comment faire. Donc, premièrement, les sophistes, il faut savoir comment ils font, ne serait-ce que... Et nous vivons une époque où nous sommes, d'abord, une époque d'intrusion, d'intrusion par les multiples réseaux sociaux et autres moyens de communication. Et nous sommes aussi envahis de paralogismes, d'images de ce qui nous est bon, de ce qui est bon pour nous. Alors que dès qu'on creuse, on se rend compte.
Vous pourriez donner des exemples, tout simplement.
Ne serait-ce que la publicité qui nous fait consommer. Dans beaucoup de cas, bon, à quoi que nous apporterait l'objet dont on nous fait envie, dont on nous donne envie? Et deuxièmement, et c'est ce que dit Aristote, philosophe, qui répond au Gorgias de Platon, il y a toutes sortes de domaines de notre réalité qui ne dépendent pas de la démonstration mathématique. Bon, un exemple très simple, le futur. Voilà, le futur. Le futur, c'est le domaine de la politique. Un politicien est là pour nous dire quoi faire, quelle décision il faut prendre. Bon, est-ce qu'on a une démonstration logique? Alors évidemment, dans le domaine de la physique, on sait, si on réunit les conditions pour une expérience, on connaît le résultat de l'expérience. Dans le domaine de la vie humaine, le domaine sublunaire, comme disait Aristote, eh bien, il y a de l'aléa, il y a de la contingence. Donc, il nous faut du probable, du plus probable, du bon, du meilleur, etc. Et la rhétorique philosophique d'Aristote nous apprend justement à trouver le préférable et à éviter le mauvais.
Pour rebondir sur ce que vous dites, quand vous parlez d'intrusion du monde extérieur, ce qui me frappe quand j'ai affaire à des élèves ou des adolescents, c'est que je me rends compte que la radio travaille trois champs qui sont quand même très malmenés actuellement par notre société, qui est l'intimité, puisqu'on est par excellence le média de l'intime. On sait très bien que dans un studio de radio se diront des choses qui ne se diront pas sur un plateau de télé. On le sait très bien. L'intimité, l'imaginaire, qui est aussi mise à mal par le déferlement d'images sur tous les supports possibles. Et enfin, l'écoute, que j'ai déjà abordé. Et je me rends compte à quel point les ateliers qui sont faits à la radio sont bénéfiques pour aller dans ces trois champs-là qui sont en jachère, quoi, actuellement.
Des ateliers qui sont d'ailleurs extrêmement demandés par les scolaires. Mais c'est quelque chose, une démarche que les classes peuvent engager.
Thank you.
Vous écoutez Être et Savoir sur France Culture. Nous parlons de la voix, de la prise de parole, de l'éloquence également dans cette émission. Alors, on vient d'entendre un air de Castra, il est de Porpora, il s'appelle Alto Giove, il est interprété par Mathieu Salama. Pierre Chiron, vous dites que vous avez une passion pour les voix. Je vais lire un extrait de votre ouvrage. Qui connaît encore les exercices préparatoires du rhéteur Aftonios d'Antioche ? Plus grand monde, j'en ai peur. Le destin de ce petit manuel, pourtant, a de quoi étonner. C'est l'un des plus grands succès éditoriaux français dans le domaine. L'ouvrage fut composé au IVe siècle à Antioche. On ne sait presque plus rien d'Aftonios, sinon que c'était un proche d'un sophiste, peut-être un peu plus connu du nom de Libanios. Bon, personnellement, je ne le connaissais pas. Dès le siècle suivant, son traité est devenu le prototype d'un cycle de formation pratiqué depuis plusieurs siècles, déjà en Grèce et à Rome, et qui ambitionnait de perfectionner chez l'adolescent la maîtrise de la langue, la capacité d'exprimer verbalement et physiquement ses sentiments et ses émotions, et d'argumenter pour ou contre un texte ou une thèse, toute compétence nécessaire s'il voulait poursuivre sa formation au niveau supérieur et devenir juriste, politicien, sophiste, conférencier, voire philosophe ou tout simplement citoyen. Alors pourquoi, c'est une vraie question que je me suis posée, pourquoi dans un pays où on fait autant appel aux valeurs républicaines, quand on parle de l'école, aux valeurs de la démocratie, on a tant oublier bien de travailler cet art oratoire ou ses compétences, même plus que cet art, dans nos écoles, à tous les niveaux de la scolarité jusqu'à l'université. Pierre Chiron, qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle qui pourrait l'expliquer ?
Il y a certainement beaucoup, beaucoup d'explications. La première, c'est que cet enseignement s'était sclérosé. Il y a une phrase de Jules Vallès à propos des, justement de ces cours de rhétorique qui faisaient crever d'ennui les jeunes gens. Donc ça c'est une chose, et une chose qui menace toujours. Par exemple, j'ai lu quelques critiques de mon petit livre, en général il est bien accueilli, mais certains disent que les exercices ne sont pas immédiatement utilisables. Et c'est vrai, je ne donne pas une séquence d'opérations précises, je ne donne pas un plan de cours. Hein ? Et ça me paraît essentiel, parce que le bon prof, c'est celui qui part d'une forme, d'une technique, etc., qui se l'approprie, qui la vivifie de l'intérieur et qui ensuite la transmet comme quelque chose qui lui appartient. C'est pas le cours qu'il fait, c'est lui-même qu'il met en opération, si j'ose dire, avec ses élèves.
Mais vous dites aussi que au 19e siècle, grand siècle de l'écrit, finalement, ce sont nos grands auteurs, nos grands écrivains, nos plus grands écrivains qui ont rabaissé la place de l'oral, de la prise de parole.
Tout à fait d'accord. Simplement, ça demande nettement, il faut prendre le cas de Victor Hugo. Bon, auteur de la fameuse formule, hein, mort à la rhétorique. Bon, c'était lui-même un très grand rhéteur. N'oublions pas que la formation de Rimbaud, par exemple. Rimbaud était un brillant élève dans son collège, a pratiqué les exercices dont il est question, Baudelaire aussi, dont il est question dans ce petit livre. Donc il y a une sorte de double discours. Alors quel était l'autre discours qui venait se substituer à cette tradition rhétorique ? C'est tout simplement la tradition romantique. Vous savez, je vais dire des horreurs, mais bon, la rhétorique est démocratique. Et le romantisme, là, je cite Victor Hugo, c'est le moi. Le moi, c'est pas forcément la collectivité. Bon, je vais un petit peu vite sur des questions.
On se tourne vers une intériorité qui serait celle de l'écriture.
Oui, alors, il y a un beau texte d'Alfred de Musset, qui s'appelle un beau livre, Les Confessions d'un enfant du siècle, où il raconte que pour les gens de sa génération, de la génération romantique, il ne restait plus d'héroïsme. L'aventure napoléonienne avait épuisé toutes les possibilités d'aventure. Il ne restait plus que le moi. Que vient faire la rhétorique dans le moi ? Elle n'a rien à y faire. Et je pense qu'il y a une espèce d'antagonisme comme ça, mais donc on a, comme on l'a dit, on a jeté la rhétorique avec l'eau du bain, hein. Mais la rhétorique, c'est aussi la démocratie. On a jeté, je crois, des techniques que notre devoir aujourd'hui est de partager à nouveau. je suis un petit peu solennel.
Et des techniques qu'on connaît depuis l'Antiquité.
Et qui sont d'autant plus indispensables que certains, les marchands, les utilisent.
Enfin, je dis qu'on connaît depuis l'Antiquité, toute proportion gardée, puisqu'on les connaît assez mal. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer nos traditions scolaires à celles d'autres pays. Oui. On sait que dans les pays de culture anglaise, aux États-Unis, par exemple, l'oral est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus travaillé dans les classes, Stéphane de Freitas.
Oui, tout à fait. Dans les classes, typiquement, il y a un exercice qui est souvent fait dans beaucoup d'écoles, c'est le show and tell. C'est-à-dire, fais-nous un geste pour nous raconter ton humeur du jour. C'est aussi l'humeur du jour que beaucoup d'enseignants, d'ailleurs, déjà en France font, c'est en fait d'inviter chacun à dire qu'est-ce qu'il ressent aujourd'hui, ou si parfois d'avoir ce temps de classe dans la journée pour parler d'un fait d'actualité et dire ce que ça a provoqué chez cette personne. Donc c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup plus présent que ce genre d'exercice-là, qui est déjà présent depuis plus d'une trentaine d'années dans beaucoup d'écoles anglo-saxonnes. Et puis on a aussi une culture de ce qui est appelé le public debating ou le public speaking, notamment aux États-Unis et aussi en Angleterre, où on pousse les élèves dans les établissements scolaires à faire des débats, des discussions et même des concours de prise de parole de manière déjà beaucoup plus présente depuis 30 ans et assez fréquente. C'est presque une institution, le concours de public speaking dans les collèges ou high school américaines, c'est une institution.
Anne de Béran.
Oui, moi, quand vous parlez de la manière dont l'oralité est sous-estimée, enfin dans nos pratiques éducatives, je dois dire que même à la radio, c'est le secret le mieux gardé. Et ce qui m'a donné envie, moi, de partager mes trucs pour vaincre le stress et le trac. C'est vraiment ça que j'avais envie de partager. Parce que très souvent, quand on travaille à la radio, les personnes vous disent « Ah, c'est cool, tu parles à la radio, c'est sympa, bon, tu fais que parler, quoi, en fait, dans ton boulot. » Et moi, je dis souvent, vous voyez, c'est comme si vous disiez à un équilibriste qui a mis un fil entre deux buildings qu'il ne fait que marcher. « Ah, c'est vrai, je ne fais que parler, mais seulement il y a 2 millions d'auditeurs sur Culture, il y en a 4 sur Info, il y en a 6 sur Inter, et mon inconscient le sait. Donc oui, je pousse la porte et j'ai le cœur qui tombe sur la table. Il y a des moments, même si on est très extraverti, on peut se retrouver paralysé. Et donc moi, il a fallu que je me retrouve avec le rouge allumé et tout mon corps qui me faisait défaut, et puis vivre un moment de stress très 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 intense pour comprendre, exactement comme quand on est jeté dans l'eau du bain et qu'on sait pas nager. Je me suis dit, ok, la nage du petit chien, c'est ça. Donc c'est ce que j'ai eu envie de partager avec le grand public. Notre challenge, c'était, ok, vous avez jamais été derrière un micro, mais si vous vous retrouvez dans un mariage avec un micro et une feuille, votre voix ne tremblera plus, votre main ne tremblera plus. C'est ça.
On n'a pas, tous 2 millions d'auditeurs, mais on peut ressentir cette émotion que vous décrivez.
C'est ça.
Devant un tout petit groupe de personnes, ça peut être devant une classe, ça peut être dans un événement festif, ça peut être dans une réunion syndicale, parce que porter sa voix, ouais, ça peut être une réunion politique, c'est aussi pour porter un propos. On a parlé plusieurs fois de démocratie, il s'agit bien aussi de défendre des idées. Est-ce que là aussi des techniques peuvent vraiment nous aider, Pierre Chiron?
Oui, je pense, en vous écoutant, un très très beau livre de Jean-Pierre Vernant qui s'appelle « La naissance de la pensée chez les Grecs », où il décrit, enfin il fait la généalogie d'un très long processus qui a conduit des sociétés mycéniennes, hiérarchisées, pyramidales, etc., à une nouvelle conception de la vie en société qui fait de l'équilibre. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'à côté de ça, il y avait des cosmologies très novatrices. Il y a, par exemple, un philosophe présocratique qui imaginait que le monde était dans le vide, comme ça, suspendu dans le vide, et suspendu par l'affrontement de forces antagonistes. Et en fait, c'est une représentation, non seulement du monde, mais une représentation de l'équilibre démocratique, qui tient dans une certaine stabilité, parce qu'il est maintenu en équilibre par l'affrontement de paroles contradictoires. Hein. Et je trouve que là, on est au cœur d'un des fondements de nos sociétés, si on veut qu'elles restent démocratiques. Il faut que chacun ait la parole et les outils, les moyens, la solidité qui permettent de supporter l'attaque adverse et de faire porter la raison si on pense qu'on la détient.
avec vous toujours, Pierre Chion, ce retour vers l'Antiquité et même avant, si on parle de la civilisation mycénienne. On va essayer de revenir aujourd'hui avec vous, Stéphane de Freitas. J'aime beaucoup ces allers-retours. Porter sa voix, c'est important aujourd'hui. On l'a vu dans le film, à voix haute, on le comprend en vous lisant. Il s'agit aussi d'une question cruciale pour les élèves de tous les milieux, des milieux populaire, et vous l'avez dit au début, d'avoir cette compétence pour aussi se faire entendre dans notre société.
Oui, c'est vrai, c'est que, en fait, beaucoup de jeunes de milieux plus populaires, on va dire, c'est vrai que l'association Eloquentia a privilégié ses actions sur des territoires plutôt d'établissements REP.
Éducation prioritaire.
Tout à fait. Parce que, souvent, quand on les met en situation, soit de nous défendre une cause qui leur tient à cœur, soit de se mettre en situation pour défendre un projet professionnel, c'est-à-dire se mettre dans une position d'avocat ou d'entrepreneur, les mettre dans cette situation-là, en fait, ça les oblige d'emblée à sortir du cadre quotidien dans lequel on est, on se projette, et on est obligé, du coup, d'avoir la rhétorique, parce qu'il y a la rhétorique du monde professionnel, il y a la rhétorique même au sein du monde professionnel de l'avocat, la rhétorique de l'entrepreneur, elles sont différentes, et quand on se met à les projeter, d'emblée, il y a quelque chose qui nous semble pas naturel. Et il y a cette petite résistance aussi, pour la première fois, de rentrer en soi pour porter un projet et le partager aux autres, quelque chose d'assez intime. Parce que finalement, à l'école, on parle assez peu, jusqu'ici, hormis des enseignants encore, il y en a beaucoup qui mettent de plus en plus des exercices de prise de parole éducative en place dans leur classe, mais à un moment donné où on se plonge et on révèle de quelque chose d'intime. Alors se passe, comme dit Pierre, dans les ateliers qu'il faisait, quelque chose d'assez particulier. Parce que quand on s'ouvre aux autres, et que les gens sentent que ça sonne juste, et que du coup c'est éloquent, justement parce que c'est juste, alors il se passe quelque chose dans la classe. Mmh. Il y a cette ouverture, il y a cette magie, il y a presque une famille qui se crée, et on se met justement à y mettre du sien, et là pour l'enseignant c'est du pain béni, parce que s'il arrive à provoquer des éveils au savoir-être, où un individu lorsqu'il prend la parole se révèle aux autres, mais d'abord à lui-même, alors ensuite pour enseigner le savoir plus traditionnel, ils seront d'autant plus à même de le suivre.
Il faut avoir un peu de technique déjà pour pouvoir porter sa parole, parce qu'au départ, on ne sait pas si on a quelque chose à dire, Stéphane de Freitas.
Complètement.
Pas toujours.
Peut-être que, alors, quand on forme en groupe, typiquement, enfin, quand on souhaite participer à un concours d'éloquence ou prendre la parole, on se pose soi-même des questions de base, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de dire, comment je veux le dire, qu'est-ce que j'ai envie de provoquer, est-ce que j'ai envie de faire rire, est-ce que j'ai envie d'avoir recours à l'humour. Est-ce que je veux faire pleurer? Et déjà, rien que ces choix, les réponses à ces questions-là sont révélatrices sur nous-mêmes. Et puis, quand on est dans une situation de formateur, d'enseignant, et qu'on forme un collectif, justement, moi, on nous a souvent sollicité pour aborder les sujets comme Charlie ou pas Charlie, comme la théorie des Illuminati, et de savoir développer une arène bienveillante, constructive, où on met la maïeutique en place. Justement, la maïeutique, c'est aller rechercher la vérité, poser des questions. Une chose toute bête que je recommande aux gens qui veulent former la prise de parole éducative, remplacer le jugement par du questionnement. Inviter lorsqu'on dit « je suis pas d'accord avec toi », inviter d'abord, premier réflexe, à inviter la personne à reformuler. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça? Et puis ensuite, si on entérine qu'on n'est pas d'accord, on peut l'être, et heureusement d'ailleurs, mais d'arriver à l'entériner calmement après avoir posé une série de questions qui permettent de dissiper tout malentendu et de comprendre la construction de la personne, parce que souvent, quand la personne... on est beaucoup plus apte à recevoir une question qu'un jugement. Et quand on reçoit des questions, alors le groupe ou l'enseignant, en fait, nous aide nous-mêmes à nous questionner sur notre analogie, sur notre syllogisme, sur nos déductions ou nos inductions, et donc de mettre peut-être le doigt sur certaines faiblesses et ressortir de là en fait en se disant, en admettant que bah peut-être qu'on n'a pas tort, parce que on peut prendre la parole et se tromper, c'est pas dramatique.
Je crois entendre Socrate.
Pierre Chiron.
Ah, c'est flatteur.
Peut-être pas faire de plus beaux compliments.
Ouais.
Un dernier mot sur la manière dont aujourd'hui la parole voyage. Alors, il n'y a pas que la radio, il y a beaucoup de conférences qui, moi, m'interpellent toujours un peu, ces fameuses conférences TED où tout le monde parle un peu pareil, à la radio aussi, dans les médias, à la télévision. La parole est extrêmement stéréotypée. Qu'en pensez-vous, Pierre Chiron?
Ça, c'est la mauvaise rhétorique. Et je vais revenir sur ce que disait Anne et ces images imposées. Moi, je crois que les belles images sont les images littéraires et aussi rhétoriques. Il n'y a pas du tout de contradiction entre les deux. Des images qu'on fait créer avec des mots, en donnant des éléments de description. Et au lieu d'imposer, c'est-à-dire que l'image créée avec des mots n'a rien à voir avec l'image visuelle. Pourquoi ? Parce que chacun voit, c'est ce qui se passe quand on lit un roman, chacun voit la réalité qu'il imagine à l'aide des mots d'autrui. Donc il y a une appropriation de l'imaginaire, par l'imaginaire, d'une réalité commune. C'est donc à la fois une réalité et en même temps un partage. Et je pense que c'est une façon de, comment dire, de communiquer avec les autres qui est beaucoup plus riche que de s'imposer mutuellement ce que font ces mauvais orateurs, c'est-à-dire des techniques répétées, stéréotypées et vides.
Et qui ont pourtant beaucoup de succès. On n'a pas pu tout dire, mais on en a dit beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Un grand courant de sympathie a circulé dans ce studio. Vous êtes tous appelés par vos prénoms. Vous ne vous connaissiez pas avant. Donc c'était bien Anne de Biran, notre voix d'antenne à France Culture, Pierre Chiron, historien de la rhétorique, et Stéphane de Freitas, réalisateur et auteur d'un nouveau livre, Porter sa voix, s'affirmer par la parole. Toutes les références, ainsi que celle du manuel, donc de Pierre Chiron, manuel de rhétorique, seront sur le site de France Culture, à la page d'être savoir. On passe à notre leçon de choses avec Sophie Bobert et son invité. Une famille où l'école est perçue comme un monde inquiétant, cette famille, c'est celle de l'écrivain Christophe Boltanski. Il raconte au micro de Sophie Bobert ses jeunes années, et ça commence dans les rues de Paris quand le jeune garçon éprouve sa liberté pour la première fois.
Pour moi, la liberté, ça a été le moment où j'ai pu marcher dans Paris. La découverte de la liberté, ça a été la découverte de Paris. Et c'est assez lié d'ailleurs à l'école, parce que j'allais... Dans un lycée, dans le cinquième, c'était le collège Lavoisier. J'habitais la moitié du temps dans le quatorzième, l'autre moitié chez mes grands-parents dans le septième, et je faisais très souvent tout ce chemin à pied. Mmh. Et c'est vrai que de découvrir comme ça des nouvelles rues, des nouveaux quartiers, ça a été quelque chose de merveilleux. J'ai vu, il n'y a pas si longtemps, le film de Chris Marker qui se passe en 1960, je crois, ou 61, je ne sais plus. Et on voit bien que ce Paris-là, le Paris où j'ai grandi, était un Paris très, 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 très gris. Et donc, c'est effectivement le Paris dont je me souviens depuis mes déplacements, soit à pied, soit quand j'accompagnais mes grands-parents, où là, on restait très, très longtemps en voiture, dans cette petite Fiat. Et il y avait un côté assez... c'était vraiment un Paris en noir anthracite.
Et votre école, Christophe Boltanski, à quoi est-ce qu'elle ressemblait ? Est-ce que vous en souvenez ? Est-ce qu'elle vous faisait peur ? Est-ce qu'elle vous attirait ?
L'école, dans ma famille, c'était quelque chose d'assez particulier parce que mon père et mes oncles n'étaient quasiment pas allés à l'école pour plein de raisons. L'aîné, Jean-Élie, à cause de la guerre, donc pendant 4 ans, il avait été retiré de l'école parce que son père était juif et qu'il y avait cette menace constante. Mon père, sa mère, le retirait régulièrement de l'école parce que d'abord il était sourd, ils s'en sont aperçus très tardivement. Et donc, il manquait 6 mois par an. Hein. Et Christian, le dernier né, lui, avait en horreur l'école. Il était terrorisé par l'école et donc a décidé, à l'âge de 11-12 ans, de ne plus y aller. Donc, c'était assez paradoxal parce que rien dans cette famille ne m'encourageait à aller à l'école, et l'école était effectivement perçue comme un monde extérieur un peu inquiétant, un peu dangereux, avec des figures d'autorité, mais dont on ne sait pas trop quoi attendre d'elle.
Et vous étiez populaire à l'école. Est-ce que vous aviez beaucoup d'amis? Est-ce que vous invitiez vos amis dans le 14e chez votre mère, ou ensuite rue de Grenelle, ou est-ce que vous étiez ce genre d'élève très observateur déjà? Mais très seul.
J'étais plutôt seul. Je crois que je n'ai jamais invité d'amis chez mes grands-parents dans cette maison parce que justement c'était un monde tellement différent de ce qui se passait à l'extérieur que ça ne m'est jamais venu à l'idée d'inviter des copains. Alors il y avait aussi un autre élément qui me faisait réfléchir sur l'école, c'était le fait que mon père, lui, est sociologue et il faisait partie du groupe de Bourdieu qui, à ce moment-là, écrivait les héritiers. Et effectivement, c'était un... je n'ai pas lu Les Héritiers quand j'avais 12 ans, hein, mais mon père, en revanche, me disait bien on expliquait le contenu, et à savoir que un enfant de bourgeois finalement n'a aucun mérite personnel à avoir de bonnes notes. C'est finalement beaucoup plus un privilège de classe. Qui mobilise ce capital culturel qui transmet sans que l'enfant s'en rende compte. Et c'est ce qui fait qu'il ait des meilleures notes que les autres élèves. Donc, bizarrement, ça m'a plutôt incité à être un élève assez médiocre, et peut-être pour essayer de me faire mentir cette loi sociologique. Jusqu'au lycée, j'étais un élève assez rêveur et assez... j'ai quand même fait des études supérieures, ce qui prouve que Bourdieu avait encore une fois raison, que malgré mon manque d'assiduité, j'ai pu surmonter tous ces handicaps et avoir mon bac.
Mais dans votre famille, de toute façon, Christophe Boltanski, c'est comme si le sentiment d'une menace ou d'un ennemi est toujours là, pas loin. Je veux dire, la cache peut toujours servir, l'OS existe toujours, la guerre d'Algérie n'est pas finie. Je veux dire, comment est-ce qu'on se sort de ça lorsqu'on est enfant ?
Moi, je suis devenu reporter. Je pense que c'est comme ça que j'ai essayé de m'en sortir. Donc, effectivement, la menace commençait très, très, très vite. Dès qu'on sortait de la maison, finalement, le monde devenait dangereux. Et peut-être que c'est ça qui m'a incité à aller juste plus loin. Donc je pense que j'ai essayé d'exorciser cette peur en m'y confrontant, en fait, en essayant d'aller voir effectivement là où la peur, en tout cas, a toutes les raisons d'exister.
Et nous vous conseillons de lire Christophe Boltanski, dernier livre paru, Le Guetteur, et c'est chez Stock. Toutes les références des ouvrages et articles cités dans l'émission seront évidemment à la page d'Être et Savoir sur le site de France Culture. Merci à Somanina qui a réalisé cette émission, à Clément Daté qui était à la prise de son et à Avril Ventura qui m'a aidé à la préparer. On se retrouve dimanche prochain à 17h sur France Culture pour un nouveau numéro d'Être et Savoir, ou un peu quand vous voulez, en podcast évidemment. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur notre chaîne.